Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Chrétien est libre ». Est-ce possible? Nous arrivons à l'étude numéro 6 et notre thème sera « Les points cardinaux du chrétien ». Où suis-je? Où vais-je? Et quelle direction prendre? Une fois en mer, s'orienter n'est pas aisé. Des récifs, des hauts fonds échappent à notre attention. Il est possible parfois de se perdre, même avec le souffle divin dans les voiles de notre âme. Ce n'est pas simple de retrouver sa route dans ce vaste océan de la vie. Il n'est pas rare, hélas, que des personnes touchées au cœur par le souffle divin s'essoufflent en des efforts désordonnés et finalement vains par ignorance, ignorance de la route à prendre. Pour éviter de se perdre sur le vaste océan, un marin se sert de deux instruments pour pouvoir naviguer en toute sécurité, en tout cas dans la période avant qu'il existait le GPS. Le premier, c'était ce que l'on appelle un sextant. Grâce à un système complexe de lentilles, le marin calcule sa position sur la Terre par rapport à la place des étoiles ou du soleil dans le ciel. Pour cela, le ciel doit être dégagé, les étoiles ou le soleil visibles. Le deuxième instrument est bien connu, c'est la boussole. Son aiguille indique toujours le nord, il est donc facile de déterminer la direction à prendre. Ainsi, le marin est en mesure de répondre aux trois questions essentielles de sa navigation, telles que sa position, son but et la direction à prendre en fonction de la réponse aux deux premières questions. Ces trois questions sont bien évidemment essentielles, non pas seulement pour le marin, mais pour tout homme qui cherche à construire sa vie comme un voyage et non pas comme un séjour statique. Beaucoup de nos contemporains ont tendance à se mettre en mouvement sans avoir les réponses à ces trois questions essentielles. Il ne s'agit pas de diaboliser, mais il s'agit de constater que le seul fait de consommer, d'acheter, parfois sans que cela réponde à un besoin réel, handicape fortement l'homme pour qu'il se pose les questions essentielles de la vie. Je veux juste noter que quand la Bible parle de l'homme, la femme est automatiquement comprise, afin qu'il n'y ait pas un problème pour les femmes, nos chères sœurs. Il ne faut pas que ça tourne en un problème bizarre. Donc, encore une fois, quand la Bible parle de l'homme, toujours la femme est comprise automatiquement. Lors du tournage du film « Des hommes et des dieux », plusieurs auteurs comme Michael Lonsdale ont raconté que l'équipe avait été envoyée dans une abbaye pour s'imprégner de la vie monastique. Cette équipe d'acteurs a ensuite vécu comme en communauté le temps du tournage et ils ont témoigné que parfois, en tournant une scène d'office à l'église, ils se sont mis à prier réellement. Et ce contact avait une vie tellement différente et plus simple, et tout cela leur a permis de se poser ces trois questions de fond. Pour savoir où nous en sommes, nous avons donc besoin de repères fixes, de points dont nous savons que, quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Dans le cas de la navigation, les étoiles et le soleil tiennent ce rôle important. La certitude de les trouver toujours à peu près à la même position dans le ciel donne un sentiment de sécurité très fort. Eh bien, au niveau humain, chers amis, un enfant a besoin d'un cadre stable pour se construire, pour être au fait de son identité. Pour le chrétien, les trois étoiles qui lui permettent de faire le point de manière certaine sur sa place dans le monde sont trois vertus: la foi, l'espérance et la charité. Je répète, la foi, l'espérance et la charité. La foi nous dit que Dieu est vraiment et que quelle est la nature de la relation que l'homme entretient avec lui et dans le monde. L'espérance enracine la conviction que le temps présent, le monde dans lequel nous vivons, est la pierre d'attente d'une réalité spirituelle qui vient. La charité motive chacune des actions de l'homme, vous avez compris, de la femme, dans sa relation à Dieu et à ses frères et sœurs. Le chrétien est donc appelé régulièrement et le plus souvent possible à faire le point par rapport à sa foi, par rapport à son espérance et sa charité. Avec honnêteté, soit tout seul, soit avec l'aide d'une autre personne, pasteur, accompagnateur, et que sais-je, il peut se situer, voir où il en est et vers quoi il veut tendre. Il trace donc une route sur une carte spirituelle en fonction de ses vivres, de ses possibilités, de son bateau personnel et de ses capacités. Et pour incarner réellement cette route, il se donne un cap, une direction, par exemple, plein ouest ou sud-est. La mise en œuvre des vertus du quotidien, illuminée par la foi, l'espérance et la charité, cela lui permet de vivre vraiment son projet. Ces points cardinaux, comme nous avons dit, ces points cardinaux du chrétien, ces vertus du quotidien, sont la prudence, la force, la justice et la tempérance. Il existe de nombreuses autres vertus du quotidien, mais toutes découlent plus ou moins de ces quatre-là. Par exemple, si en faisant le point, je me rends compte que la charité n'est pas assez puissante en moi au quotidien, jour après jour, je vais chercher à être plus juste par amour, oui, par amour avec mon entourage, et ainsi de suite pour toutes les vertus. La foi, espérance et charité me disent où j'en suis, où je devrais aller, la route à tracer pour y parvenir. Prudence, justice, force, tempérance sont donc la navigation au jour le jour, à adapter en fonction de la météo, et je ne serai pas prudent de la même manière par temps de tempête ou par grand calme et le ciel tout bleu. Et c'est de cette manière que se développe la vie morale du chrétien. Bien souvent, nous avons souligné que cette vie morale ne consiste pas à bien faire, mais à faire le bien. Oui, à faire le bien au quotidien, et quelle que soit la situation dans laquelle l'homme se trouve en fonction des moyens à sa disposition au moment où se décide l'action. Cette décision sera riche et porteuse de sens quand le chrétien en vérité saura quelle est sa foi, son espérance et sa charité. La foi est avant tout une question de confiance. Souvent, et elle est réduite au seul contenu en quoi que nous croyons, le symbole de la foi, le credo, les grandes vérités. Et cette approche est incomplète et elle donne une interprétation trop intellectuelle de la démarche de foi. Par exemple, la Corée a connu un épisode tout à fait étonnant. Après une période d'évangélisation plus ou moins libre, les chrétiens furent persécutés. Et pendant environ 2 siècles, pas un pasteur ne résida dans ce pays. Or, au bout de cette période, des jésuites en sont arrivés, pensant trouver une terre absolument sans chrétiens. Or, quelle ne fut pas leur surprise de rencontrer des communautés très vivaces avec une organisation de la vie de foi, très importante, mais qui rendait ces hommes, ces femmes et enfants authentiquement disciples du Christ. De telles communautés existent aussi en Chine, comme le décrit Archibald Joseph Cronin dans son livre « Les clés du royaume ». Ces Coréens et Chinois avaient la foi de manière authentique, car ils avaient d'abord et avant tout confiance en la personne de Jésus-Christ qu'ils avaient rencontré au plus intime de leur vie et de leur âme. Tous les discours les mieux construits ne peuvent donner la foi. Elle naît de la rencontre de l'âme avec Jésus. Rencontre, certes, préparée par l'enseignement de prédication, mais qui ne se déploie que dans cet instant mystérieux de l'acte de la foi. Une fois cette rencontre effectuée, il convient de se mettre aux côtés du Seigneur et d'écouter sa voix et de comprendre dans le sens de prendre avec soi ses enseignements de la vie. Par ailleurs, la foi n'est pas de la crédulité. Quand Jésus-Christ a vu Thomas 8 jours après la résurrection, il ne lui dit pas « Ne sois plus incrédule, sois crédule ». Mais Jésus a dit « Ne deviens pas incrédule, mais deviens surtout croyant ». Je répète, ne deviens pas incrédule, mais surtout deviens croyant. Celui qui est crédule croit trop facilement, trop naïvement ce qu'on lui dit. Il est comme un candide. Or, celui qui a la foi répond à un appel par un attachement confiant en une personne. Dans notre traversée de la vie, la foi nous permet de nous situer par rapport au projet de Dieu pour, on peut dire, pour la femme et pour l'homme. Il s'agit de savoir si le chrétien accepte au plus profond de lui qu'il compte réellement, non pas de manière factice ou incomplète, mais à tel point que Dieu se fait homme pour que l'homme s'approche vraiment de Dieu. L'étoile de la foi, elle nous situe par rapport à l'éternité. Elle est le chemin d'acceptation que la vie d'un homme, ridiculement petit au regard de l'histoire de l'univers, a valeur d'éternité. Nous avons donc une valeur d'éternité. Le plus incroyable dans ce chemin, c'est que cette acceptation n'a rien d'écrasant, car le projet qui nous est exposé, c'est celui d'un père, et non pas seulement d'un grand architecte à la franc-maçon. L'espérance est différente et nous situe non plus par rapport à l'éternité, mais par rapport à l'histoire. Elle nous fait attendre ce que nous ne sommes pas encore, ce que nous ne possédons pas encore, ce que nous sommes appelés non pas seulement à devenir, mais à faire advenir, non pas seulement à recevoir, mais à concevoir et à construire. La foi, elle nous fait découvrir Dieu comme acteur majeur du plan du salut qui est voulu par Dieu. L'espérance fait découvrir à l'homme que lui-même est auteur majeur de l'histoire du salut. En cela, cette vertu est celle de la marche en avant, de l'acceptation du chrétien, de la dimension pèlerine de l'homme. C'est l'espérance qui fait se bouger l'homme. Elle est la vertu du Fils, du disciple de Jésus-Christ, venu annoncer un salut qui vient dès lors que l'on accepte de se mettre en marche avec lui. Elle est la force de l'homme qui est convaincu que toute action en faveur de la pauvreté, de la justice, de la douceur et ainsi de suite est une pierre d'attente pour la vie éternelle qui vient bientôt. Chers amis, quelle est l'espérance du chrétien dans sa traversée de l'océan? Si elle n'est pas la hauteur de sa foi, s'il ne met pas en œuvre un travail de qualité, mais se laisse gagner par l'ivresse du travail facile, clinquant et éphémère, alors il risque de rencontrer bien des désillusions. Mais si beaucoup auront du mal à le reconnaître et à l'admettre. Quant à la charité, chers amis, elle permet aux chrétiens de se situer par rapport au moment présent. Elle est la vertu qui rend éternel chaque instant présent inscrit dans l'histoire des hommes et des femmes, vous l'avez compris. Elle permet de faire le lien entre la foi et l'espérance, si bien, oui, si bien, dit l'apôtre Paul, qu'elle est la seule à demeurer dans la vie éternelle, puisque nous serons dans l'éternité présente de Dieu notre Père. C'est la vertu du regard de Dieu posé sur les hommes aimés, non pas sur le « tu peux mieux faire », non, pas seulement si tu peux mieux faire, ou les promesses d'avenir, ou la condescendance de celui qui sait, c'est l'amour immédiat, l'amour gratuit et total pour celui et celle qui se trouve ici et maintenant devant nous. C'est d'ailleurs la difficulté de cette vertu. Elle implique de savoir aimer, même sans espoir, même sans promesse de progrès. Elle est donc la vertu de l'inconditionnel. Et c'est dans la charité que se résout réellement la qualité de la vie chrétienne. Oui, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'apôtre Jean ajoute plus loin, d'une manière encore plus lapidaire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, sa sœur, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, sa sœur, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà donc le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère et sa sœur. Nous avons déjà rappelé les manières d'aimer de charité que l'apôtre Paul a tellement merveilleusement décrites. Il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens et en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert absolument de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt propre, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réduit pas de l'injustice. Surtout, elle ne se réjouit pas de tout ce qui est injuste. Mais voyez-vous, elle met sa foi dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, donc, ne passe jamais. Voyez-vous, le rapport de ce texte est ici essentiel. Je crois que c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. Le rappel de ce texte est ici essentiel en le rapprochant de la parole de l'apôtre Jean. Cela signifie que celui qui ne rentre pas dans cette dynamique est un menteur. Et cela permet également de voir que cette vertu est la vérité de la foi et de l'espérance, vu l'exigence qu'elle implique pour la vie du moment présent. Il est tellement facile de se cacher derrière l'éternité du plan divin pour ne pas rentrer dans le présent. Par exemple, en faisant de la théologie sans savoir aimer son prochain, il est tellement aisé de disserter sur l'histoire de l'Église pour ses erreurs, ses errements, ses fautes, et pendant ce temps détester son frère, sa sœur, baptisé parce que d'une sensibilité un peu différente. Quelle est ta foi? Quelle est ton espérance? Quelle est ta charité? Grâce à la réponse à ces questions, le chrétien saura qui il est et où il se trouve par rapport à l'éternité, par rapport à l'histoire et au présent. Il saura où il doit aller et ainsi de quelle manière vivre les vertus du quotidien. La première vertu du quotidien est la prudence. Oui, évidemment, en général, dans le langage courant, quand on parle d'une personne prudente, on sous-entend qu'elle n'agit pas beaucoup, qu'elle est stationnaire, qu'elle est plutôt indécise, qu'elle se pose sans cesse la question de savoir ce qu'il convient de faire ou non. En fait, la prudence, voyez-vous, c'est la vertu de la décision et de l'action, et non pas de l'inaction. C'est donc la vertu du prévoyant qui est capable de voir avant les conséquences possibles de ses actes pour mieux déterminer ce qu'il doit faire. Il ne s'agit donc pas de se perdre dans des angoisses qui conduisent à l'inaction, mais de construire des raisonnements éclairés et justes conduisant à une action dont les conséquences ne peuvent être que bénéfiques. L'histoire des hommes, y compris récente, est constellée d'exemples de décisions imprudentes par une absence quasi totale de réflexion sur les conséquences possibles, telles que les guerres, par exemple, dont la décision finale ne prenait pas en compte cette maxime extraordinaire d'Aristote. L'objet de la guerre, c'est la paix. La prudence est donc d'abord une activité de l'intelligence, plus exactement de la raison. Elle est un raisonnement, non pas pour aboutir à une formule de savoir scientifique, mais dans le but de poser une action pratique. Les personnes qui se disent prudentes, mais ne passent jamais à l'action, ne sont pas à proprement parler prudentes, elles sont juste indécises et ne savent pas réfléchir sans agir jamais. Voyez-vous, chers amis, comme personne prudente, l'homme a le souci de choisir l'action concrète. Connaître les grands principes, cela ne suffit pas. Il faut également et surtout savoir les appliquer à la situation réelle que l'on vit. Ce point est essentiel pour bien comprendre la morale. Celle-ci n'est pas une collection de grands principes bien universels qui font peur et rébutent la plupart des hommes. Elle est une lumière pour faire le bien dans le concret avec les moyens que nous possédons ici et maintenant et non pas dans l'absolu. Une action bonne du point de vue de la prudence pour une personne particulière ne le sera peut-être pas pour une autre, en raison de la situation totalement différente qu'elle vive. Cela n'introduit pas une forme de relativisme moral, mais cela donne une prise en compte de la vie effective des personnes pour les accompagner dans le choix moral qu'elles vont faire. Voyez-vous, la prudence, c'est la vertu, non d'une graduation de la loi qui donnerait une morale à principe variable, mais d'une loi de la gradualité. Elle prend en compte le chemin de chacun pour qu'il apprenne à monter graduellement les marches de la vie morale. Il est donc essentiel d'annoncer ce point de la morale chrétienne aux hommes et aux femmes de notre temps. La prudence, c'est donc une véritable vertu, car elle devient plus facile petit à petit par l'exercice et par la répétition de ses actes, et en évitant d'agir soit par excès, soit par défaut de prudence. Cet apprentissage progressif, cela peut se faire de bien des manières. L'aide d'une personne pour peser le pour et le contre et pour aboutir à un vrai choix et avec une pensée subtile. Une autre est la relecture totalement calme des décisions qui sont prises en mettant en regard les raisons initiales du choix qui est posé, ainsi que sa mise en œuvre et ses conséquences concrètes. Cette relecture, elle permet de se souvenir de ce qui a vraiment été efficace et de trouver d'autres voies si l'erreur a découlé d'une réflexion imparfaite. Et c'est ici que l'éducation des enfants et les adolescents est primordiale. Elle doit viser à développer la prudence en permettant à la raison de se déterminer dans le bien. Cette éducation à la prudence n'est pas un catalogue de bien, de faire bien attention à tout, ce qui revient bien plus à faire porter à l'enfant, telles que les peurs, les angoisses, indécision et donc manquer de prudence. Elle passe donc par une légitime interrogation qui est adressée à l'enfant et lui laisse le temps de répondre par lui-même et de progresser ainsi dans sa capacité à mettre en œuvre le bien. Encore une fois, la morale chrétienne n'est pas bien faire, mais faire le bien. Voyez-vous, quand on manque de prudence, le risque est de devenir imprudent ou téméraire, de foncer dans l'action sans en avoir pesé les tenants et les aboutissants. La personne se trouve alors confrontée à régler des problèmes dont elle est la première responsable, quelle que soit la bonne intention qu'elle a pu ressentir au départ de l'action. Et quand on est trop imprudent ou trop prudent, oui, quand on est trop prudent, eh bien, c'est l'inaction ou l'inconstance qui nous guette, car la raison est absolument incapable d'aboutir à une conclusion concrète en vue de l'action. On se rattache alors au point de vue d'une autre sans être en mesure de devenir effectivement adulte dans sa vie. Voyez-vous, le deuxième aspect, c'est la prise en compte du présent tel qu'il est par l'intelligence et par la sagacité, et non tel que nous le pensons ou que nous imaginons. Bien souvent, quand une personne prend une décision qui se révélera inefficace ou même contre-productive, c'est parce que tout simplement qu'elle n'a pas su ou voulu prendre en compte tous les aspects du problème à résoudre. En entreprise, il est toujours intéressant, dans un projet, de faire la liste exhaustive de tout ce qui pourra le faire échouer. Le troisième aspect, c'est la raison. La raison pour pouvoir mettre en perspective les éléments portés à notre connaissance en fonction de l'expérience que nous avons pu acquérir. Il est essentiel de prendre le temps d'une véritable et profonde, d'un profond raisonnement qui implique d'ailleurs d'en vérifier à la fin les conclusions en se demandant « Et si j'avais tort ?» Cette simple question permet de pratiquer un double raisonnement, permettre de ne pas tenir pour argent comptant nos seules intuitions. Je répète, il est essentiel de prendre le temps d'une véritable et profonde, d'un profond raisonnement qui implique d'ailleurs d'en vérifier à la fin les conclusions en se demandant « Et si j'avais tort ?» Eh bien, cette simple question permet de pratiquer un doute rationnel qui va permettre de ne pas tenir pour argent comptant nos seules intuitions. Le quatrième est une forme subtile de docilité aux avis de l'entourage ou de la personne avisée. Cette docilité n'est pas une obéissance aveugle qui trahirait la vertu de prudence, mais c'est une qualité d'écoute d'un autre avis venant d'une personne qui est avisée, qui est reconnue pour sa prudence et pour sa sagesse. C'est donc une docilité qui concerne principalement la capacité à se laisser questionner, à se laisser interroger par d'autres pour permettre une approche plus complète de la question et de ses enjeux. Le dernier aspect, c'est l'anticipation et la prévoyance du futur possible, des conséquences envisageables de telle ou telle décision. Bien sûr, il est impossible de faire le tour de toutes les possibilités, mais habituer son intelligence à prendre en compte le prévisible, cela lui permet de mieux gérer l'imprévu quand il se présente. L'ensemble de ces aspects permet donc à la personne de déterminer de manière raisonnable quel est le bien qu'il lui convient de rejoindre par son action. Elle permet donc un juste usage de toutes les autres vertus. Sans la prudence, elles ne peuvent savoir vers quoi s'orienter. Cette vertu de prudence est une de celles qui fait le plus défaut à notre époque. Les hommes et les femmes, elles réagissent bien plus qu'ils n'agissent. Leurs actions sont souvent en réaction sans être le fruit d'une décision mûrement réfléchie. Comme le dit l'expression consacrée, nous sommes également sans cesse sollicités à agir en fonction d'une impulsion, d'une envie, d'un désir même fugace. La publicité ne cesse de nous encourager à de tels agissements. Les décisions sont alors prises sous le coup de l'affectivité, du ressenti, voire même du ressentiment. Nous avons donc urgemment besoin de prudence pour une meilleure action. Le chrétien, il fait parfois une expérience étonnante devant une situation inextricable en apparence. Pour lui ou pour d'autres, il peut lui arriver d'une manière spontanée, comme un réflexe immédiat, de trouver et de dire la solution exactement adéquate à la situation. Cette attitude correspond à un don, oui, à un don du Saint-Esprit que l'on appelle le conseil. Cette forme d'intuition de l'action juste, sans passer par un raisonnement parfois long et compliqué, est une manière pour le souffle divin d'avoir une action immédiate sur le cœur et sur l'intelligence de l'homme, de la femme, en vue de faciliter sa prise de décision. Bien souvent, ce don se manifeste après un temps où la personne concernée, elle se met dans une véritable disposition d'écouter enfin Dieu, et elle tend ses voiles, telles que l'intelligence en volonté et le souffle divin. La deuxième vertu du quotidien est la justice, qui consiste à rendre à chaque personne ce qui lui est dû, ce qu'elle doit recevoir. Elle implique donc d'avoir une claire vision de ce qui est juste en tant que tel, non pas seulement par rapport au droit, à la loi telle qu'elle a été fixée, mais par rapport à une forme de justice qui correspond à la nature même des personnes. Un débat peu connu du procès de Nuremberg peut ici nous éclairer. Lors de ce procès, où les principaux criminels de guerre nazis ont été jugés, en tous les cas, ceux qui avaient été faits prisonniers en 1945, les accusés présentèrent une défense basée sur la loi allemande. Pour eux, il n'était pas possible de les condamner, car ils avaient agi conformément aux lois de leur pays, lois légitimes selon le droit, puisque Hitler avait été élu démocratiquement à la tête de l'Allemagne et que le Parlement allemand avait voté les lois du Reich. Les juges répondirent en substance qu'ils étaient jugés non pas en référence aux lois votées en Allemagne, mais à une loi bien plus importante et contraignante, inscrite dans le cœur de tout homme. Leurs actes étaient donc des crimes contre l'humanité, contre ce que tous les hommes ont en commun et qu'aucun régime ne peut attaquer de manière légale. La vertu de justice n'est donc pas une obéissance aveugle à des lois votées qui ne nous disent ce qui est bien de faire. Elle consiste à faire ce qui est juste et bien en fonction de la conscience éclairée. Elle est donc gouvernée par la prudence. Sinon, elle risque de n'être qu'une forme de légalisme qui fait accepter des horreurs au nom de l'obéissance à l'État. La vertu de justice est donc un appel lancé aux chrétiens à se lever contre les atteintes faites à l'homme qui a été créé par Dieu, fussent-elles votées légalement par le pouvoir législatif. Elle n'est pas seulement la bonne habitude de ne pas tomber dans les injustices communes, telles que le vol, y compris de l'État, dans le fait de frauder, les atteintes aux personnes et le faux témoignage. Bien plus, il s'agit, comme pour toute la vie morale, de bien faire, de faire le bien, et non pas seulement de s'abstenir de faire le mal. Car au nom d'une justice inspirée de Dieu, il est tout à fait possible de choisir des actes qui semblent injustes. Par exemple, au cours d'un procès pour favoriser la conversion d'une personne ou bien de témoigner d'une justice aimante, une personne peut renoncer à ce qui lui est dû. Et humainement, cela est une forme d'injustice. Mais aux yeux de Dieu et dans la perspective de l'espérance, cela peut être le signe de l'attente d'une richesse autre et plus fondamentale. Réclamer justice est donc souvent devenu réclamer à chacun ce qui m'est dû, au lieu de donner, de rendre à chacun ce qui lui est dû. La justice comme vertu n'est pas une réclamation comme dans un procès, une revendication. C'est une habitude à faire le bien en rendant à chacun ce dont il a besoin. Un mouvement de milliardaires a été né aux États-Unis en 2009, fin 2010. Il rassemblait une soixantaine de personnes extrêmement riches qui ont été prêtes à donner la moitié de leur fortune pour des causes humanitaires. D'un point de vue strictement légal, leur fortune leur est totalement due, car c'est le fruit de leur travail ou de leur famille s'ils sont héritiers. Mais du point de vue de la vertu de justice, leur acte prend tout son sens, car il tient compte non de la réclamation, mais du don à ceux qui dans leur patrie du monde ont droit également, en fonction de leur humanité, à vivre de manière un peu décente. Et bien évidemment, cette vertu de justice devrait être celle du juge quand il doit rendre une décision. Le litige entre deux personnes naît de leur incapacité à pratiquer la vertu de justice, de comprendre par eux-mêmes ce qui est dû à l'un et à l'autre. Les lois écrites permettent de mieux discerner ce qui est juste dans ces cas de litige, et le juge, comme interprète de cette loi écrite, a comme fonction de permettre aux plaignants de renouer avec la justice comme vertu, quitte à ce que cela se passe un peu par une contrainte. Amen. Chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour total, unique, merveilleux. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez maintenant, tout près ou très éloigné, je vous enlace tous et je vous embrasse en vous disant oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons par une courte prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te demandons ta bénédiction sur ta parole vivante, sur l'appel de ta grâce qui retentit en ce jour, et sur toutes les âmes qui entendent cette parole, sur l'âme qui est solitaire et en ce moment dans la difficulté, dans le désarroi, et qui entend ta voix, prend conscience de ta présence, de ta volonté de sauver et de faire grâce et d'accorder ta miséricorde. Oui, maintenant, entre dans ces vies, entre ces cœurs, entre dans ces cœurs et accomplis au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, ton œuvre de grâce, de délivrance et de rédemption. Et nous te le demandons en ce nom merveilleux et vainqueur, Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.